d'introduire notre étude ce matin, je voudrais que nous lisions un passage de l'Écriture. Dans la seconde épître de Paul à Timothée, un texte sans doute assez long, mais je ne veux pas le raccourcir, même si le temps nous manque, ce n'est pas la lecture de l'Écriture qui doit en pâtir. Seconde épître de Paul à Timothée, chapitre 3 et début du chapitre 4. Sache bien par ailleurs que dans les derniers temps surviendront des moments difficiles. Les hommes en effet seront égoïstes, cupides, vantards, orgueilleux, diffamateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, sans cœur, implacables, médisants, intempérants, intraitables, ennemis du bien, délateurs, effrontés, aveuglés par l'orgueil, plus amis de la volupté que de Dieu, ayant les apparences de la piété, mais reniant ce qui en est la force. Cela aussi évite-les. Ils sont bien du nombre, ceux qui s'introduisent dans les maisons et envoûtent des femmelettes chargées de péchés, entraînées par toutes sortes de passions, et qui, toujours à s'instruire, ne sont jamais capables de parvenir à la connaissance de la vérité. À l'exemple de Jannès et de Jambrès, qui se dressèrent contre Moïse, ils se dressent, eux aussi, contre la vérité. Hommes à l'esprit corrompu, sans garantie en matière de foi. Mais ils n'iront pas plus loin, car leur folie sera démasquée aux yeux de tous, comme le fut celle des deux autres. Pour toi, tu m'as suivi dans mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, ma charité, ma constance dans les persécutions et les souffrances qui me sont survenues à Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas eu à subir ? Et de toutes, le Seigneur m'a délivré. Oui, tous ceux qui veulent vivre dans le Christ avec piété seront persécutés. Quant aux pécheurs et aux charlatans, ils feront toujours plus de progrès dans le mal, à la fois trompeurs et trompés. Pour toi, tiens-toi à ce que tu as appris et dont tu as acquis la certitude. Tu sais de quel maître tu le tiens. Et c'est depuis ton plus jeune âge que tu connais les saintes lettres. Elles sont à même de te procurer la sagesse qui conduit au salut par la foi dans le Christ Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser, former à la justice. Ainsi l'homme de Dieu se trouve-t-il accompli, équipé pour toute œuvre bonne. Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition et de son règne, proclame la parole, insiste à temps et à contre-temps, réfute, menace, exhorte, avec une patience inlassable et le souci d'instruire. Car un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au contraire, au gré de leur passion et l'oreille les démangeant, ils se donneront des maîtres en quantité et détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables. Pour toi, sois prudent en tout, supporte l'épreuve, fais œuvre de prédicateur de l'Évangile, acquitte-toi à la perfection de ton ministère. Voici que moi, je suis déjà répandu en libation et le moment de mon départ est venu. J'ai combattu jusqu'au bout le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Et maintenant, voici qu'est préparée pour moi la couronne de justice. Qu'en retour, le Seigneur me donnera en ce jour-là, lui le juste juge, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront attendu avec amour son apparition. Face à la confusion théologique, on n'aurait peut-être pas dû demander à un théologien d'en parler. Il est toujours tenté de dire des choses qui n'intéresseront que les théologiens comme lui. Je vous promets d'essayer de ne pas entrer trop dans ce que les Anglais appellent, je crois, « technicalities », des points particuliers qui ne seraient pas d'intérêt à tous. Comme hier, et je l'ai fait sans même m'en excuser hier. Je ne retiendrai dans mon exposé à propos de théologie que la théologie d'étiquette chrétienne. Je laisse de côté donc la théologie implicite que l'on peut trouver pratiquement chez tout auteur. Récemment, j'ai lu un article fort intelligent sur la théologie de Freud. Freud, rejetant une certaine image de Dieu, avait bâti une sorte de théologie. Il avait une image de ce Dieu qu'il dénonçait. On peut donc lui attribuer une sorte de théologie. L'usage du terme théologie se restreint habituellement à ceux qui ont une théologie avouée ou explicite, et par conséquent, je ne me sens pas obligé de traiter de la théologie de tous les courants de pensée que l'on pourrait trouver. D'autre part, je laisse aussi de côté la théologie, elle, avouée, explicite, de ce qu'on appelle les sectes. Je laisse aussi de côté la théologie des grandes religions qui, malgré les points de contact actuels, malgré le brassage qui commence, n'ont pas encore envahi de façon considérable la scène théologique occidentale et nous concernent donc relativement peu sous l'angle de la théologie. Mais je laisse de côté la théologie des sectes pour la raison suivante. Quand je parle de sectes, je pense à des gens comme les Témoins de Jéhovah ou les Mormons. Il me semble que les erreurs doctrinales de ces mouvements, il ne s'agit pas de mépriser parce qu'ils sont peu nombreux, le nombre ne fait rien à l'affaire, et que les erreurs doctrinales de ces mouvements, qui ne sont pas souvent plus graves que les erreurs doctrinales des théologiens d'étiquette chrétienne que je vais mentionner, sont beaucoup moins instructives cependant, et que les étudier nous sera moins profitable. Je définirai le caractère de secte par une espèce d'isolement à l'égard de la vie culturelle et des méthodes de pensée qui permettent le dialogue. Donc il ne s'agit pas tant du contenu que de ce style même. Il me semble que le sectaire se coupe de tout le mouvement des idées, non seulement de son temps, mais de l'histoire avant lui, pense qu'il a, dans les livres de du fondateur de la secte, par exemple, la clé nécessaire et suffisante à l'intelligence des Écritures, et avec une rigidité très évidente pour tous ceux qui sont, en tout cas, du dehors, refuse toute remise en cause, refuse tout véritable débat, néglige de manière évidente ce qui pourrait s'appeler les lois de l'exégèse, qu'en les transgressant plus ou moins, quand même, la plupart des théologiens reconnaissent. De telle sorte que le débat n'est pas très fructueux. De toute façon, je ne crois pas qu'en négligeant ces théologies, nous perdions grand-chose de la confusion contemporaine. Il me semble que dans les courants théologiques d'étiquette chrétienne, pratiquement toutes les possibilités de divagation sont à l'heure actuelle représentées. Et qu'ainsi, nous n'avons pas besoin de chercher ailleurs pour avoir une image de confusion en face de laquelle nous déterminer, nous armer de toutes les armes de Dieu, nous qui voulons être des chrétiens forts en ce temps de confusion. J'ai divisé mon exposé en trois parties, de nouveau, ce ne sera pas automatique, demain ce sera deux parties seulement. En trois parties, je voudrais parler tout d'abord du spectre ou de la gamme des positions que l'on rencontre. Ensuite, de la question qu'on pourrait appeler la question verrou ou la question pivot en toute l'affaire, et en troisième lieu du motif fondamental ou du présupposé que l'on peut découvrir à l'origine de la diversité confusionniste de notre temps. Hier, j'ai parlé de la genèse de la situation actuelle en distinguant trois grandes étapes historiques, celle du début du siècle, celle de l'époque dominée par Karl Barth, et puis celle qui a commencé en gros vers 1960, les années 50, début des années 60. Aujourd'hui, je découpe une tranche dans le temps, si vous voulez, et je vous dis quelle est la diversité des positions que l'on trouve. Et je classe, évidemment d'une manière un peu grossière et rudimentaire, selon la proximité de la position évangélique, qui serait la mienne, qui est celle des GBU. Bon, il y a les théologiens évangéliques qui se rallient, malgré les diversités internes qui sont très mesurées, qu'on exagère très souvent, qui se rallient autour d'une confession de foi, comme celle des groupes bibliques universitaires, qui se sont rencontrés à Lausanne. Le congrès de Lausanne a été la démonstration éclatante de l'unité fondamentale et de l'importance numérique, quand même assez sensible, de ces évangéliques dans le monde. C'est aussi cette théologie évangélique qui tous essaient de promouvoir. Il y a des théologiens de valeur, je vous cite quelques noms pour que vous ayez quand même quelques points de repère. Les théologiens associés au GBU britannique sont particulièrement précieux, solides. Je vous signale James Packer d'Oxford, un anglican évangélique, dont un livre, en tout cas, je crois qu'il n'y en a qu'un seul qui est traduit en français, La souveraineté de Dieu et l'évangélisation, un petit ouvrage que je vous recommande à 100%, 200%. Bon, Jim Packer, par exemple. Aux Pays-Bas, un homme comme le professeur Klaas Runia serait un bon représentant de cette théologie évangélique. En Allemagne, le professeur luthérien Peter Beierhaus, qui est professeur à l'université de Tübingen. Aux États-Unis, il y en a plusieurs. Je pourrais peut-être signaler un que j'apprécie tout spécialement moi-même, qui était à Paris à la fin du mois de janvier et à Aix un peu avant, le président du séminaire de Westminster, Edmond Clowney. Tu as d'ailleurs publié un ou deux articles de lui dans le passé. Qui citait encore? Oui, on pourrait citer aussi Leon Morris. Je crois qu'aucun de ses livres n'est traduit en français, mais ceux qui lisent l'anglais, je leur recommande avec beaucoup d'insistance les ouvrages de cet auteur qui est australien, soit sur la doctrine de la rédemption. C'est le grand spécialiste mondial, à mon avis, de cette doctrine. Soit son grand commentaire récent, 900 pages, sur l'évangile de Jean. Un auteur extrêmement précieux. Bon, c'est pas encore le plus gros commentaire qui existe sur cet évangile. Et il est récent, n'est-ce pas? Il ne suffit pas d'avoir de bons ouvrages anciens. Je considère que le commentaire de Godet que nous avons en français est sans doute le meilleur qu'il ait écrit. Son commentaire sur Jean me paraît le meilleur. Mais malgré tout, il date un peu. Et un ouvrage comme celui de Leon Morris est vraiment très utile. Donc il y a les évangéliques. Je pense que très proche des évangéliques, il doit y avoir un certain nombre de catholiques biblicistes, mais il ne me semble pas qu'il y ait aucun leader théologique parmi eux. Je crois que parmi les prêtres ou aumôniers, il y a des hommes qui gardent encore l'étiquette catholique et qui sont finalement très proches des positions évangéliques. Mais je crois qu'il y en a. Je ne connais pas parmi ceux qui publient, parmi ceux qui conduisent donc la pensée théologique, de représentants que je puisse citer. Ensuite, alors, maintenant, à quelque distance de cette théologie évangélique, il me semble que l'on peut trouver trois groupes, à peu près la même distance, disons. Trois groupes, trois directions. Vous avez première direction, la direction de la Rome éternelle. Vous avez le groupe des intégristes catholiques, qui maintiennent strictement le dogme traditionnel que vous connaissez. Représentants vivants actuellement de cette tendance, et je ne parle pas alors des extrémistes qui sont surtout vociférants, genre Michel de Saint-Pierre ou Abbé de Nantes, etc. Non, mais représentants vraiment qualifiés, autorisés, vous avez le cardinal Journet. Le cardinal Journet, dont j'ai lu il y a quelques jours un texte qui présentait les indulgences accordées à l'occasion de l'année sainte. Vous savez que l'année sainte est marquée par l'attribution d'indulgences à ceux qui font le pèlerinage de Rome, etc. Ce thème des indulgences n'a pas disparu du catholicisme contemporain, mais beaucoup de théologiens catholiques ont tendance aujourd'hui à le mettre sous le boisseau. Mais un homme comme le cardinal Journet n'hésite pas à commenter et à encourager les fidèles à acquérir ces indulgences. Donc, le groupe des intégristes. Ensuite, il y aurait, je reste du côté catholique pour le moment, deuxième groupe, le groupe des thomistes modérés, des théologiens catholiques qui gardent les structures fondamentales de la foi traditionnelle, qui sont très positifs sur toutes les affirmations du credo, par exemple, résurrection de Jésus-Christ, naissance virginale, mais qui admettent les méthodes critiques de traitement de la Bible, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à reconnaître qu'ici ou là, il y a une contradiction, une erreur, qui ne semblent pas s'en faire beaucoup, d'ailleurs, à ce propos. Vous avez un certain nombre d'auteurs de la génération qui a dominé en France après la Seconde Guerre mondiale, des hommes de très grande envergure, des hommes de valeur. Alors, je vous signale celui qui, à mes yeux, est le plus enrichissant, le père Congar, Yves Congar. Il y aurait aussi, côté philosophique davantage, Henri de Lubac, ou bien côté alors travail biblique, André Feuillet. Voilà des hommes dont les travaux peuvent être assez utiles souvent aux évangéliques, mais qui se tiennent à quelque distance. Direction peut-être le Sauchoir, le grand séminaire dominicain de France. Troisième direction, alors, direction Bâle, où Karl Barth a enseigné, et où son fils actuellement est professeur de Nouveau Testament, Marcus Barth, la direction, le groupe des Barthiens conservateurs, des Barthiens qui insistent dans l'héritage de Karl Barth sur les thèmes les plus proches de ceux de la Réforme. Vous auriez Marcus Barth lui-même. Vous avez en Allemagne un homme comme Otto Weber qui a fait un résumé de la dogmatique de Karl Barth autrefois. Vous avez en Italie Vittorio Subilia qui est à la retraite maintenant mais qui était doyen de la faculté vaudoise de Rome. Ou en Écosse Thomas Torrance, d'ailleurs un ancien GBUcien, vient d'une famille qui était évangélique. En France, on pourrait peut-être classer, mais il est très indépendant, très très à part, Jacques Ellul, dans ce groupe des Barthiens conservateurs. En général, ils affirment avec beaucoup de force la réalité de la résurrection de Jésus-Christ, réalité dans le temps et dans l'espace, et en général, ils affirment aussi sa naissance virginale, par exemple. Si vous les interrogez sur les événements rapportés au début de la Genèse, alors là, les choses deviennent un peu plus floues. Troisième zone, alors, la distance, cette fois, se creuse. Là, j'ai beaucoup de peine à caractériser les positions de manière très nette. Il s'agit du tout venant, il s'agit sans doute de la majorité des théologiens en place, aussi bien du côté protestant que du côté catholique, soumis à diverses influences, avec des positions assez diverses, plus ou moins floues. Il y a la marque de Barth, il y a la marque de Bonnefère aussi, du côté protestant en tout cas, et souvent aussi du côté catholique. Il s'agit d'hommes qui affirment, dans un certain sens, la divinité de Jésus-Christ, qui l'affirment, mais vous demandez un petit peu exactement ce qu'ils veulent dire, qui affirme sa résurrection. Seulement, comme le disait Émile Brunner, un des hommes qui a précédé dans cette voie, c'est pas un événement historique, c'est un trou dans l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Vous vous posez un peu la question. Vous avez un jeu en général sur la notion de résurrection. C'est un fait, mais pas un fait comme les autres faits de l'histoire. Et en tout cas, les témoignages dans les évangiles ne doivent pas du tout être pris comme des preuves historiques à l'égard de cet événement. Vous avez un jeu un peu flou. Je crois que pas mal de théologiens seraient à classer dans cette zone avec évidemment des différences, parce que selon les questions, les uns sont plus ou moins éloignés, n'est-ce pas ? Je crois qu'un homme comme le doyen Widmer de la faculté théologique protestante de Genève pourrait être classé à peu près dans ces eaux-là. Je pense que du côté catholique, on pourrait citer le père Xavier Léon Dufour, qui a écrit pas mal de choses sur la Bible, ou bien un ancien thomiste qui a pas mal évolué, comme le Édouard Srillebeek, théologien belge ou qui enseigne à Nimègue. Mais il y aurait un très grand nombre de noms si vraiment on voulait dévider toute la liste. Plus loin alors encore, plus loin, nous avons soit les anciens libéraux, les libéraux de type ancien, je dis quelques mots hier, des gens qui ont subi souvent l'influence d'Albert Schweitzer, mais ils sont peu nombreux. Vous auriez à Genève Henri Babel avec sa... Il s'appelle Babel, c'est pas sa faute, ça. Henri Babel avec sa théologie de l'énergie, vaguement panthéisante. À Paris, vous avez un homme assez connu comme le pasteur Georges Marchal qui fait des cultes conférences à la forme littéraire très soignée. Mais vous avez surtout beaucoup de néolibéraux, disciples des deux grands penseurs des années 40-50, le spécialiste allemand de Nouveau Testament, Rudolf Bultmann, champion de la démythologisation du Nouveau Testament, et le penseur germano-américain Paul Tillich. Paul Tillich, qui scandalisait déjà les gens à cette époque, dans les années 50, en disant « Dieu n'existe pas ». Mais il leur disait dans le sens suivant, Dieu n'est pas un être, il est l'être même, il est la profondeur de l'être. Alors il n'existe pas, parce que l'existence ne peut se dire que d'un être. Il est l'abîme et le fondement de tout ce qui est, la dimension de profondeur du réel. C'était la thèse de Tillich. Chez Bultmann, vous avez une pensée qui est dominée par l'existentialisme de son ancien collègue Martin Heidegger, et les thèses sont tout à fait nettes en ce qui concerne la résurrection. Polémiquant avec le philosophe existentialiste Karl Jaspers, Bultmann dit clairement, il n'est pas question pour moi, pas plus que pour Jaspers, d'imaginer que le cadavre de Jésus de Nazareth ait pu reprendre vie dans son tombeau. Pas question. Bon, il prêche la résurrection, oui, il prêche la résurrection, mais il explique assez clairement ailleurs ce qu'il veut dire. Il s'agit de la puissance d'ouverture du message paradoxal du pardon des péchés. Le pardon des péchés m'est annoncé, je suis ouvert à l'existence, je suis délié de mon passé et je peux ainsi me projeter vers l'avenir dans un renouvellement de chaque instant, et c'est ça la résurrection. Et il n'y en a pas d'autre. Pas question de penser à une autre résurrection. Alors ces deux hommes ont influencé énormément, ont dominé la scène théologique après les années 45. D'abord Bultmann, puis ensuite Tillich. Et n'imaginez pas qu'il s'agisse seulement du protestantisme. À l'heure actuelle, ce sont les maisons d'édition catholiques qui les publient, ces hommes-là, en français. La plupart des livres, et de Bultmann et de Tillich, sont publiés par des éditeurs catholiques, le Seuil en particulier, et d'autres. Ils ont des disciples extrêmement nombreux. Il me semble qu'on peut distinguer peut-être trois directions principales parmi ces néolibéraux. Vous avez ceux qui sont marqués surtout par l'existentialisme, qui essaient de suivre l'évolution de Heidegger après la phase qui a déterminé la pensée de Bultmann lui-même. Alors ils se passionnent pour l'herméneutique, des discussions extrêmement abstraites, spéculatives, de type philosophique élevé. Et plus récemment, alors l'influence structuraliste s'est aussi exercée sur eux. Des discussions sur ce qu'est comprendre, sur l'approche du texte. Le mot-clé, c'est le mot herméneutique, c'est-à-dire science de l'interprétation. C'est devenu presque un mot magique dans ces cercles-là. En France, on considère que le philosophe majeur, et c'est plus qu'un disciple, c'est un créateur de première taille, de première force, le philosophe majeur dans cette tendance, c'est Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, donc l'ancien doyen de Nanterre, il a eu son heure de célébrité. Paul Ricoeur est un peu le chef de file des théologiens néolibéraux, aussi bien catholiques que protestants, à l'heure actuelle dans cette direction herméneutique. Puis vous avez la théologie politique post-barthienne, théologie du monde, ou post-personnaliste, post-barthienne du côté protestant, ou post-personnaliste, vous connaissez le mouvement personnaliste avec la revue Esprit, fondée par Emmanuel Mounier dans les années 30, du côté catholique. Et cette théologie politique se fait très très vite théologie marxisante, théologie de la révolution, théologie de la libération. Alors là, il y aurait pas mal de noms à citer. Relativement modéré, vous auriez l'allemand Moltmann, qui a repris le thème de l'espérance, tel que le livre du marxiste Ernst Bloch l'a encouragé à le faire, en appliquant en quelque sorte certaines des catégories de Bloch à la Bible. Vous avez du côté catholique Jean-Baptiste Metz, qui est, si vous voulez, celui qui lui correspond. Et vous avez pas mal d'autres hommes. Et alors on atteint assez vite la zone dernière, des gens les plus éloignés, des radicaux, comme on pourrait les appeler. Je me situe les radicaux encore au-delà des néolibéraux. On a de la peine à tracer des frontières très strictes, bien sûr. Vous avez d'une part le groupe des théologiens de la sécularisation et de la mort de Dieu, qui ont fait pas mal de bruit dans les années 60. Un groupe américain, mais avec des correspondants européens. Vous avez Cox, l'homme de la cité séculière. Vous avez Altheiser, un épiscopalien d'origine, qui a écrit un livre sous le titre « L'évangile de l'athéisme chrétien ». Et il est très influencé par la pensée du poète maudit du début du 19e siècle, William Blake, les anglicistes connaissent, qui affirmait la coïncidence des opposés et la nécessité de faire la synthèse de Dieu et de Satan. Et c'est ce que reprend à son compte Thomas Altheiser, qui dit « il nous faut appliquer en quelque sorte Satan à Dieu pour que surgisse un Dieu au-delà de Dieu ». À quoi mon ami Montgomery a répondu, mais il ne sait pas si ce n'est pas un Satan au-delà de Satan qui va en sortir. Vous avez Altheiser, vous avez Hamilton, William Hamilton, qui lui, pendant un temps, attendait encore un Dieu de délectation, le Dieu d'utilisation, comme il disait, le Dieu qui répond à nos besoins, le Dieu dont nous avons, besoin pour résoudre nos problèmes, alors celui-là, il n'est plus question. Il n'y a pas en l'homme de vide qui est la forme de Dieu pour que Dieu le remplisse. Ça, il le nie, il le refuse. Enfin, il attendait un certain temps un Dieu de délectation, un Dieu simplement pour la jouissance de sa beauté. Mais maintenant, il a abandonné même cette attente-là. Plus question. Il ne prie même plus. Vous avez aussi Paul van Buren, qui est marqué par la philosophie néo-positiviste, qui a tant d'influence dans les milieux anglo-saxons. Et on a résumé le livre de Paul van Buren de cette manière. Je trouve que ça tombe juste. Il n'y a pas de Dieu et Jésus est son prophète. C'est, je crois, exactement comme ça qu'on peut résumer. Mais il y a du côté catholique des gens qui disent à peu près la même chose. Vous avez le Canadien Leslie Duart, que l'on considère comme nettement plus radical que Tillich, par exemple. Leslie Duart, pour qui il n'y a aucune vérité absolue, tout est relatif. Puis vous avez les chrétiens marxistes. J'ai parlé hier, déjà, et j'en reparlerai encore, de ce numéro spécial de la revue dominicaine Lumière et Vie, où vous avez des chrétiens marxistes qui s'affirment et qui montrent que ce qui compte pour eux, c'est là qu'il y a affirmation, qu'il y a certitude, c'est le marxisme, bien entendu. Alors dans cette situation, quel va être notre fil conducteur? Dans cette confusion, multiplicité de positions, comment allons-nous nous y retrouver? Comment comprendre cette diversité? Il est manifeste pour tous les autres, et presque pour eux-mêmes, que les radicaux ne sont plus des chrétiens. Ils portent encore l'étiquette, oui, mais vraiment, c'est une étiquette qui se désagrège. Dans ce numéro de Lumière et Vie, il y en a un des participants dit « Si j'avais à choisir entre mon christianisme et la révolution, c'est pas d'hésitation, c'est la révolution. » Il le dit clairement. Et il n'est pas le seul à dire cela. J'avais pêché dans un livre de Jacques Ellul une citation du père Maillard, rédacteur en chef de la revue Frères du Monde, qui disait la même chose. Alors il me semble que quand on en est là, on est déjà conscient soi-même que le christianisme n'est plus qu'un vernis en train de se dissoudre. Donc il y a là une situation relativement claire au bout, dans ces zones lointaines. Oui, mais de quel droit refuser à ces chrétiens marxistes, au père Cardonnel par exemple, le père Cardonnel qui est revenu de Chine en célébrant cet immense couvent obligatoire. Un autre marxiste appelle ça du maoïsme délirant. Donc, de quel droit refuser le label de chrétien au père Cardonnel et puis le donner, par exemple, à son compère protestant, Georges Casalis, qui pourrait être situé du côté de la théologie politique néolibérale. Ils sont tellement proches, ce sont des amis intimes. Alors, pourquoi lui refuser? Bon, si on le refuse à Georges Casalis, ancien professeur à la faculté de théologie protestante de Paris, si on le refuse à Casalis, mais comment alors le donner à certains de ses collègues Barthien, à Louis Simon par exemple, qui est très proche de lui, qui est le président du conseil régional de l'église réformée à Paris, le pasteur Louis Simon. Mais pourtant lui se considère encore comme assez proche des positions barthiennes que Casalis et lui avaient ensemble dans leur jeunesse. D'ailleurs, Casalis a épousé la fille de Tournaisen, le vieux compagnon de lutte de Karl Barth. Il a écrit une biographie de Karl Barth en français qui fait autorité. Il était très proche de Karl Barth. Alors de quel droit? On va dire, bon, Casalis, pas chrétien, mais Simon, chrétien. Ils sont beaucoup trop proches pour qu'on puisse le dire. Mais si on accorde que Simon alors a droit toujours à l'appellation, alors le doyen Widmer ou un autre, finalement, ils ne sont pas... paraissent pas si éloignés. Et puis, bon, il renie la naissance virginale. Oui, mais ils affirment la résurrection. Alors, finalement, Barth, il a affirmé les deux, oui, mais seulement pour la résurrection. Karl Barth a dit qu'il croyait que c'est arrivé, bien sûr, mais qu'il y avait quand même des contradictions dans les récits des évangiles. Ça, il l'a dit aussi, tout en affirmant la réalité de la résurrection. Alors, de quel droit refuser l'étiquette? Le problème, vous voyez, n'est pas un problème simplement de glissement, de fait. Un homme ou une série de personnages qui peu à peu prennent des positions en dégradation insensible. Mais le problème est un problème de droit. Bon, l'un vous dit, je ne crois plus à la résurrection, ce n'est plus que la puissance du message qui me touche. Vous dites, bon, alors ça c'est l'annulation très claire du principe que pose l'apôtre Paul au chapitre 15 de la première aux Corinthiens, il n'y a plus de christianisme. Mais un autre vous dit, je crois à la résurrection, il y a quelque chose qui est arrivé. Seulement, ce n'est pas de l'histoire comme notre histoire. Ah, quelque chose est arrivé, oui, oui. Mais quoi? C'est un trou dans le temps. Alors, est-ce qu'on pouvait faire une telle différence? Et puis, après ça, alors, si vous refusez cette position-là, et on dit, oui, je crois que c'est arrivé, c'est historique, mais c'est, ou plutôt c'est historial, mais c'est pas historique. Voilà position de type Barthien. C'est arrivé, mais ce n'est pas accessible à l'historien. Et les témoignages qui se contredisent, n'est-ce pas, ne comptent pas. Alors, la distance, finalement, vous voyez, elle s'amenuise entre ces positions. De quel droit refuser à l'un la possibilité de pousser son interprétation un peu plus loin? William Hamilton, ce théologien de la mort de Dieu dont j'ai parlé, je crois, a très bien vu ce problème. Il le présente de la manière suivante, en disant « Nous avons abandonné successivement la démonologie de Jésus. » Les libéraux ont commencé à dire « Non, ces histoires de démons, on ne peut pas croire ça. » « Nous avons abandonné la démonologie de Jésus, déjà au XVIIIe, au début du XIXe siècle. » Puis nous avons abandonné l'eschatologie de Jésus. Nous n'avons plus cru que la fin du monde allait arriver tout de suite comme ils le croyaient, en se trompant. Nous avons abandonné l'eschatologie de Jésus. Ça, c'était à la fin du 19e, début du 20e. Puis nous avons abandonné la cosmologie de Jésus. C'est ce que Bultmann nous a appris en disant il faut tout démythologiser, toute la vision du monde est inacceptable à nous, hommes modernes. Alors pourquoi garder la théologie de Jésus? Pourquoi garderions-nous sa conception de Dieu? Voilà la force de cet argument. Il me semble que nous devons reconnaître la force de cet argument, mais reprocher à Hamilton de n'être pas remonté assez haut dans sa recherche de l'endroit où ça a commencé. Et c'est là que je verrai pour moi la clé de toute l'affaire. Il s'est arrêté un cran trop bas, parce qu'avant d'abandonner la démonologie de Jésus, le libéralisme a abandonné autre chose, a abandonné la bibliologie de Jésus, a abandonné la conception qu'avait Jésus de l'autorité de l'Écriture, de sa véracité entière, a abandonné l'attitude que Jésus nous démontre à l'égard de l'Ancien Testament. Et il me semble qu'on peut dire que le verrou de cette affaire, qui, lorsqu'on le fait sauter, alors ne protège plus de l'envahissement par toutes les vagues du chaos théologique. Le verrou, c'est la doctrine de l'Écriture. Peut-être pas suprêmement importante en elle-même, mais qui finalement fait la véritable frontière entre une théologie de chrétien fort et puis l'invitation à la confusion. Lorsque ce verrou cède, lorsqu'on fait sauter cette bibliologie de Jésus, cette confession de l'entière autorité, l'autorité souveraine des Écritures, on donne à l'homme le droit de trier dans l'Écriture, d'en prendre et d'en laisser, de laisser son jugement supplanter le jugement des auteurs sacrés. Ça peut commencer sur des questions qu'on estimera périphériques, d'histoire ou de géographie, ou je ne sais, mais le principe est là. Le jugement de l'homme qui lit la Bible aujourd'hui est surimposé au jugement de l'Écriture. Et quand il y a conflit, on donne raison à l'homme moderne. Je crois que nous avons là un exemple particulier de cette loi que nous avons vue hier comme la loi générale du glissement, de la glissade dans le chaos, dans la confusion. L'orgueil de l'homme qui veut se faire un nom, qui s'affirme et qui supplante Dieu au trône d'autorité, voilà ce qui entraîne comme inéluctable conséquence, comme à Babel, la confusion. Dans un contexte étrangement actuel, vous l'avez certainement remarqué quand j'ai lu tout à l'heure, le contexte de ces derniers temps où les hommes se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, vous remarquez quelle est l'insistance de l'apôtre Paul. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Tu connais les saintes lettres, tiens-toi à ce dont tu as acquis, la certitude. Voilà l'accent que met l'apôtre Paul pour avoir un chrétien fort en la personne de Timothée. L'écriture sainte, la saine doctrine qui y est incluse, et insiste à temps et hors de temps. Même si ça ne plaît pas, oui, ça ne plaira pas. Avec patience, vas-y, réfute, vas-y. Il s'agit de cela, me semble-t-il, d'abord, de l'attitude à l'égard de l'Écriture sainte. L'apôtre Jean est tout à fait d'accord, vous savez, vous connaissez son si beau texte de sa première épître au chapitre 2, lorsqu'il dit aux jeunes gens, vous êtes forts parce que la parole de Dieu habite en vous. C'est l'habitation de la parole de Dieu en nous, sans réserve, de telle sorte qu'elle prenne possession de tout notre jugement qui donne force aux chrétiens pour résister aux séductions de la confusion théologique. Les chrétiens évangéliques sont les seuls à confesser l'autorité souveraine de l'Écriture sainte. À la confesser. Bon, ils s'y soumettent hélas, je ne m'y soumets hélas pas totalement. En fait, ça voudrait dire autrement que je serais totalement sanctifié dans mon travail d'intelligence. Et cela, je le sais par la Bible. que je n'y suis pas. Dans notre interprétation de la Bible, nous incorporons facilement des éléments qui ne sont pas de la Bible elle-même. Et dans cette mesure, nous ne sommes pas entièrement soumis à l'autorité scripturaire. Mais en tout cas, nous la confessons. En tout cas, de façon sincère, nous désirons que ce soit la Bible et la Bible tout entière qui domine notre pensée. Nous sommes les seuls comme chrétiens évangéliques. Les intégristes catholiques affirment aussi l'autorité entière et sans aucune erreur de l'ensemble de l'autorité de l'Écriture sainte. Seulement, vous le savez, ils admettent aussi des dogmes qu'il ne serait pas possible de prouver par l'Écriture sainte, de fonder dans l'Écriture sainte. Et ils le reconnaissent eux-mêmes en disant qu'il faut une autre autorité pour fonder celle de ces dogmes, l'autorité d'un magistère institutionnel. Il me semble que c'est avoué qu'on ne fait pas de l'autorité biblique une autorité souveraine. En fait, on lui en conjugue une autre, et une autre qui pratiquement, puisqu'elle dit comment il faut comprendre la Bible, se surimpose à celle de la Bible elle-même. Or, dans cette affaire, quiconque ajoute retranche. Quiconque ajoute à la Bible retranche à son autorité, donc il n'y a pas autorité souveraine pour l'Écriture. Et quant aux autres groupes, alors il est clair qu'ils remettent en cause la plénitude de cette autorité. Les thomistes modérés dont j'ai parlé peuvent être en pratique souvent très bibliques. Ils admettent le droit du jugement humain de remettre en cause certaines des affirmations de l'Écriture. De même, les Bartiens peut-être le disent plus qu'ils ne le font, mais si aussi ils le font, affirment que la parole de Dieu ne peut pas être confondue avec l'Écriture. L'Écriture devient parole de Dieu où et quand Dieu le veut, mais c'est un événement évanescent qui ne laisse pas de traces, et en elle-même, ce n'est qu'un livre humain infaillible et plein de contradictions. Alors en fait, les Bartiens conservateurs le lisent avec un respect qui leur permet de voir des choses très intéressantes et enrichissantes, mais il n'y a pas soumission intégrale à l'autorité de l'Écriture sainte. Quant aux autres positions, alors la chose est entendue. J'ai été personnellement très heureux de voir comment le Congrès de Lausanne a réaffirmé avec une très grande force l'autorité de l'Écriture sans erreur aucune. Mais parce que les chrétiens évangéliques sont tentés, les vents de confusion soufflent fort, sont tentés dans le monde d'atténuer la rigueur de leur position. Mais le Congrès de Lausanne a bien su discerner, je crois, l'importance décisive de cette doctrine. Dans le camp de formation de la Morlaix en septembre dernier, certains d'entre vous y assistaient, j'ai eu l'occasion d'exposer la doctrine biblique de l'Écriture sainte. Alors je ne vais pas le recommencer maintenant, de toute façon je n'en ai pas le temps. Je voudrais simplement faire une remarque qui je crois est importante, qui pourrait stimuler vos réflexions. Je crois qu'on peut dire que la christologie, la doctrine de la personne de Jésus-Christ, est tout de suite mise en cause lorsqu'on touche à la doctrine de l'Écriture sainte. Tout à l'heure j'ai parlé de façon assez générale d'un verrou, une clé. Mais là je vous fais observer ce point particulier qui montre qu'il ne peut pas s'agir d'un sujet qu'un chrétien laisserait de côté en disant oh, c'est une affaire de spécialiste. De deux points de vue, la confession Jésus Seigneur est en cause dans la doctrine de l'Écriture sainte. D'une part, il y a le fait que pratiquement tout le monde reconnaît, pratiquement tout le monde, que le Jésus historique a eu la position stricte des évangéliques sur l'Écriture sainte. Historiquement, ça ne peut pas faire de doute. Jésus a regardé l'Ancien Testament comme les théologiens évangéliques et eux seuls considèrent la Bible aujourd'hui. Et il a eu à l'égard des pharisiens, disons, cette attitude qui est, me semble-t-il, typique des chrétiens évangéliques, même en face des intégristes catholiques, en disant « pas de tradition humaine qui vienne en fait neutraliser l'autorité biblique sous prétexte de servir de garde-fou à l'interprétation ». Les pharisiens, bien sûr, avaient une doctrine tout à fait correcte de l'Écriture sainte, de sa nature, de son statut, et Jésus ne leur a jamais reproché. Au contraire, il dit « vous faites très bien ». sondé les Écritures, très bien, jamais reproché de donner à la Bible l'autorité qu'il donnait. Mais il leur a reproché, voyez Matthieu 15, il leur a reproché de neutraliser en fait cette autorité par les traditions qu'ils avaient accumulées et qu'ils traitaient pratiquement comme d'égale autorité ou comme autorité supérieure. Jésus a eu cette attitude. Alors si on dit Jésus Seigneur et qu'on dénonce cette attitude, qu'on la répudie, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose de très sérieux, très grave? Deuxième élément, dans ce rapport étroit entre bibliologie et christologie, si vous dites je remets en cause la Bible et ce n'est qu'un témoignage faillible que je suis obligé moi de corriger finalement, quel est le Christ que vous confessez? Notre seule voie d'accès à un Christ qui ne serait pas la fiction de notre propre esprit, c'est la Bible. Si ce n'est pas le portrait de Jésus-Christ que la Bible et la Bible tout entière nous donne, auquel nous adhérons, alors finalement le Christ que nous confessons n'est plus qu'une idole que nous avons produite, avec des ressemblances plus ou moins marquées, peut-être avec le Christ des Évangiles, selon que nous retenons tel ou tel élément, mais c'est fondamentalement un autre Christ que celui qui a existé et qui vit aujourd'hui. Ainsi, nous avons, semble-t-il, un lien très étroit qui ne nous permet pas de traiter, en quelque sorte, par l'indifférence, cette question décisive de l'autorité scripturaire. Mais je n'ignore pas le tollé que l'affirmation des positions que je viens de prendre suscite dans le monde théologique aujourd'hui. Alors il faut quand même parler un petit peu des ripostes que les théologiens que j'ai évoqués tout à l'heure essaient de lancer. On nous accusera sans doute en premier lieu de chercher avec une telle doctrine une sécurisation névrotique. Vous êtes des gens qui avaient besoin d'un livre infaillible pour vous accrocher à ce livre infaillible parce qu'en fait vous êtes insécure. Alors que répondre à cette observation? En premier lieu, il me semble qu'on pourrait répondre que pour que l'argument ait une certaine force, il faudrait qu'il s'appuie sur une corrélation dûment constatée, avec statistiques à l'appui, entre des tendances névrotiques d'insécurité qui cherchent à se compenser et puis l'adoption de la position évangélique sur la question de l'écriture. Alors, je n'ai pas l'impression que de telles statistiques aient été faites, aient été produites. Et quand je regarde autour de moi, bon, là on n'est pas bon juge sur soi-même dans cette pareille affaire, mais quand je regarde autour de moi, mes collègues, je n'ai pas l'impression d'avoir, disons, un pourcentage particulièrement inquiétant de personnalités névrotiques ou visiblement insécures. Bon. Même si c'était le cas, l'affaire ne serait pas entendue encore, car il faudrait chercher à interpréter. Et il faudrait voir si, par hasard, un autre facteur ne pourrait pas interférer et expliquer pourquoi des personnalités de type névrotique se rangeraient du côté évangélique. Ce ne serait pas encore nécessairement une disqualification de la doctrine biblique évangélique de l'Écriture. Et puis, il me semble qu'on peut retourner l'argument. Ça, c'est le deuxième point fondamental à propos de cette objection. On nous accuse de chercher une sécurité avec un livre comme la Bible. Mais moi je découvre que c'est plutôt le combat, un combat parfois assez dur, que m'impose la confession de l'entière autorité de la Bible. Je ne peux pas dire « Oh oui, mais la parole de Dieu c'est autre chose, alors je crois à la parole de Dieu, et la Bible a des erreurs bien sûr, mais pas de problème ». Je ne peux pas dire ça. Je suis obligé de faire face aux objections que l'on me lance sur tel ou tel point. Donc il s'agit de se battre, il y a des tensions, il ne faut pas que ce soit tellement sécurisant. Ne serait-ce pas plutôt de l'autre côté, dans l'affirmation d'une parole de Dieu évanescente, insaisissable et invérifiable, que se situerait la fuite assez sécurisante, assez confortable? Il me semble qu'on peut poser la question. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est à propos d'une question très proche, pas la même exactement, mais très proche. le revirement personnel du philosophe Gabriel Marcel. Avec Gabriel Marcel a été le champion de l'invérifiable autrefois, opposant la foi et toute fondation sur des faits, sur des preuves quelconques, même toute amorce de fondation. Il considérait que l'apologétique, l'effort pour chercher des raisons, c'était l'athéisme même. Or, dans un texte autobiographique, dont j'ai lu une citation très intéressante, de 1971, le livre « En chemin vers quel éveil », il revient sur cette attitude et se rend compte lui-même qu'en fait c'était une fuite, que cette proclamation héroïque, romantique de l'invérifiable, c'était finalement un moyen d'éviter la difficulté d'un combat. Je lis la citation que j'ai pêchée. Il se demande s'il n'était pas trop soucieux de se garantir contre les risques que comporte toute entreprise où intervient l'exigence de vérification. Voilà la pensée que je glisse à propos de cette première objection. Deuxième objection, alors, on nous accusera, et c'est le gros morceau sans doute dans le débat, on nous accusera de négliger les résultats acquis de la critique biblique depuis 2-3 siècles. On nous accusera de nous voiler la face devant des évidences, devant des contradictions, par exemple, absolument inconciliables dans l'Écriture. Alors, je ne peux pas reprendre tout ce sujet en détail. D'ailleurs, j'ai un peu parlé à la Morlaix en septembre dernier. Et je pourrais répondre éventuellement à des questions, si vous en avez. Mais il me semble que je peux répondre deux choses. Deux choses principalement. Premièrement, si vraiment la situation était telle qu'on nous l'a décrit, résultat acquis, la critique, tout ce qui est scientifique est d'accord, on ne comprendrait pas qu'il y ait dans le monde actuellement tant de savants reconnus, avec tous les doctorats voulus, et pas seulement du doctorat, parce qu'on peut les avoir un peu au rabais, mais tant de savants reconnus, dont les travaux sont quand même respectés par des collègues non évangéliques, et qui adhèrent à la foi évangélique. En France, vous n'en avez peut-être pas tellement, d'accord, c'est bien triste, mais autour des GBU anglais, par exemple, dans les pays anglo-saxons, vous en avez un nombre impressionnant. J'ai lu quelque part que celui qui sera probablement président de la Société internationale d'études du Nouveau Testament, c'est-à-dire la société qui réunit tous les professeurs du Nouveau Testament dans le monde, ce sera sans doute le professeur Frederick Fivey Bruce, qui est un auteur associé depuis longtemps au GBU anglais, professeur à Manchester. D'accord, sa position n'est pas toujours aussi stricte, aussi carrée que j'aimerais qu'elle le soit. Bon. Mais quand même, c'est un évangélique. Même s'il y a une ou deux petites concessions, c'est un évangélique, fondamentalement. Le fait qu'un tel homme soit probablement élu, il a peut-être été même déjà maintenant, mais président de cette société internationale, montre qu'il y a des hommes qui atteignent une réputation mondiale dans le domaine scientifique et qui n'ont pas du tout ces théologies confusionnistes que j'ai évoquées. Alors, l'évolution d'un homme comme William Foxwell Albright, qui a été considéré de son vivant, il est mort récemment, le principal archéologue au monde, a été particulièrement éloquente. Spécialiste d'archéologie du Moyen-Orient et de Palestine en particulier, Albright a déclaré, j'ai lu des textes de lui, vers la fin de sa vie, que tout en restant théologiquement un libéral, bon, je le regrette, mais en un sens, ça donne à son témoignage plus de poids, tout en restant théologiquement libéral, il était devenu plus conservateur que les évangéliques sur bien des points de critique biblique. Il avait été amené par ses trouvailles d'archéologue à modifier fondamentalement ses jugements. Une évolution intéressante. Je crois qu'on peut dire qu'en France, M. André Parot, conservateur du musée du Louvre, a suivi une évolution un peu semblable. Et que certains m'ont peut-être entendu raconter qu'une fois j'ai dit ça, je faisais un culte sur l'autorité de l'écriture, à la rue Serpente d'ailleurs, c'était pour l'église libre de Paris. Puis à la fin, après le culte, une dame est venue me remercier en particulier de ce que j'avais dit ça, en me disant « Je suis la fille d'André Parot, ce que vous avez dit est vrai. » ça m'a beaucoup encouragé. Voilà donc quelques éléments de fait qui vous montrent que ces prétendus résultats acquis, etc., ça c'est du slogan. Et rien de plus. En second lieu, on nous reproche de nous voiler la face devant des évidences de contradiction. Je crois que nous pouvons dire qu'il y a des difficultés, bien sûr. Oui, il y a des choses que nous ne résolvons pas, nous n'avons pas à tout résoudre. Il y a des divergences qui peuvent effectivement nous gêner. Seulement, que nous devons nous rappeler qu'étant donné notre ignorance du langage, des canons linguistiques et littéraires mis en œuvre par les auteurs bibliques, notre ignorance du contexte historique, il n'est que naturel qu'il y ait des difficultés que nous sommes incapables de surmonter. Si la Bible était un livre intemporel, tombé du ciel comme un météore, bon, mais c'est un livre qui a été écrit par Dieu dans une histoire, en liaison intime avec cette histoire, et il y a des choses que nous n'y comprenons pas. Oui, nous devons l'admettre. Dieu a rendu assez clair tout le message central, mais il faut travailler pour comprendre certaines petites choses. Quand on songe que chaque découverte de tablettes archéologiques, comme celle de Ras Chamra par exemple, bouleverse complètement la conception que les critiques se faisaient du Moyen-Orient et du contexte historique dans lequel ont écrit les auteurs bibliques, et que pourtant il y a peut-être seulement le millième de ces tablettes qui ont été découvertes, on se rend compte que ce que disent les critiques, leur travail comme ils peuvent, n'est que très conjectural, et qu'il y a bien des choses qui nous manquent pour tout comprendre. Alors il n'est pas étonnant qu'il y ait des difficultés qui subsistent, oui. Et nous n'avons pas là à prendre une attitude névrotique, oui, de panique devant ces difficultés, ou de volonté forcenée de tout réconcilier maintenant, comme si nous en avions les moyens, pas forcément. Et puis alors souvent, c'est vraiment une science imparfaite, sinon une demi-science, qui trouve la difficulté, alors qu'une science, sinon parfaite du moins, un peu moins imparfaite, débrouille l'affaire très facilement. Monsieur Ex-Braya m'a signalé qu'un de, parmi vous, je ne sais pas lequel, avait posé la question de la contradiction qui semble être insoluble dans nos traductions. En tout cas, entre le récit de la conversion de l'apôtre Paul qui nous est fait au chapitre 9 du livre des Actes et le récit qu'il nous en donne lui-même au chapitre 22, au chapitre 9 et au verset 7, nous lisons que les hommes qui faisaient route avec lui se tenaient stupéfaits, entendant la voix, ne voyant personne. Entendant la voix, ne voyant personne. Au chapitre 22, l'apôtre Paul raconte le même épisode, et au verset 9, nous lisons que ceux qui étaient avec moi, dit-il, ont bien vu la lumière, mais n'ont pas entendu la voix de celui qui me parlait. Ah, ça paraît une contradiction désespérée. J'en avais eu la solution au cours de mes classes de grec avec monsieur Jules-Marcel Nicole. Et alors quand je m'occupais du magazine Chantier, qui à l'époque était aussi magazine des GBU français, que j'étais du comité de rédaction parisien, j'avais demandé à monsieur Nicole d'écrire sur ce petit problème qui se résout en fait très facilement dès que l'on peut considérer l'original. Le verbe entendre en grec peut avoir deux sens. D'ailleurs, un peu comme notre verbe entendre en français, surtout dans son emploi ancien. Si vous dites je vous entends bien, cela peut se référer à la simple perception du bruit. Quand vous répondez au téléphone ou à la radio, je vous entends 5-5, bon, je vous entends bien, ça veut dire le bruit me parvient convenablement. Mais cela peut vouloir dire aussi je vous comprends bien. Vous avez une conversation, je vous entends bien, oui. Je discerne vos raisons, j'entre dans votre pensée. Et vous avez les deux sens du mot. En grec aussi, pour le verbe qui est employé ici, le verbe entendre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en grec, ces deux sens se se construisent, enfin, impliquent deux constructions différentes, ce que nous n'avons pas en français. Vous construisez avec le génitif, s'il s'agit simplement du son, et avec l'accusatif, s'il s'agit du sens. Vous pouvez discerner entre les deux emplois de ce verbe grâce au changement du cas du complément. Et quand vous vous reportez alors au texte du livre des Actes, tout c'est clair. Dans le chapitre 9, l'apôtre Paul dit qu'ils entendaient, génitif, la voix. Oui, ils ont perçu un bruit. Les sons leur sont parvenus. Et au chapitre 22, il dit qu'ils n'entendaient pas la voix de celui qui parlait. Vous remarquez en plus qu'il y a cette petite addition de celui qui parlait, parce qu'il s'agit de le relier à un parleur. Ils n'entendaient pas avec cette fois l'accusatif, se référant au sens des paroles dites. Et la même chose pour la vision. Alors là, on le voit dans la traduction même. Au chapitre 9, il nous est dit qu'il ne voyait personne, et au chapitre 22, qu'il voyait la lumière. C'est différent. Alors je crois qu'avec ces deux éléments, nous avons le tableau complet. Nous nous rendons compte très bien de ce qui s'est passé. L'ensemble du groupe, Paul et ses compagnons, ont été sous un phénomène extraordinaire, grande lumière, grand bruit, pom, 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 pom. Bon, alors, tous, ils ont vu de la lumière et entendu du bruit. Stupéfaits donc tous. Mais Paul seul a discerné la personne, a vu la personne du Christ glorifié et a discerné les paroles de celui qui parlait. Oui, ces deux textes sont remarquablement homogènes finalement, complémentaires. D'ailleurs, je vous signale qu'il y a sans doute aussi un souvenir là dans la manière dont Dieu a procédé de ce que nous trouvons au chapitre 10 du livre de Daniel, verset 7. Une apparition à Daniel où aussi lui seul peut voir, les autres sont stupéfaits, discernent pas. Et chapitre 10, verset 7 du livre de Daniel. Voilà donc un exemple. Une science un peu plus aiguisée peut éliminer tout à fait la difficulté. Alors, on va nous répondre encore une troisième chose. On va nous dire, bon, d'accord, mais au fond, dans toute cette affaire, vous apportez à la Bible une notion de vérité particulière. Vous apportez une notion de vérité qui est au fond grecque, qui n'est pas hébraïque. L'idée que la vérité, c'est la conformité au réel. Alors, vous exigez donc que la Bible soit vraie dans ce sens-là. Et pour vous, alors, la foi dépend de la vérité comme conformité au réel, à l'histoire, etc. Mais ça, c'est une notion de vérité arbitraire. Et nous en avons une autre. Pour nous, la vérité, c'est la rencontre de la personne au-delà de tout schéma que la raison pourrait considérer. Alors, vous avez votre notion de vérité, ben, laissez-nous avoir la nôtre, au moins. Le pluralisme, chacun sa notion de vérité. Alors que répondre à cette façon de présenter le problème qui, je crois, est un mélange de vrai et de faux, un peu comme d'ailleurs le pâté de cheval et d'alouette, vous voyez, un peu de vérité et beaucoup du reste. La parcelle de vérité, c'est qu'en effet, la position que nous adoptons implique une notion de vérité. La notion de vérité, elle varie de courant de pensée à courant de pensée, et effectivement, la position que nous adoptons implique une notion de vérité. Et effectivement aussi, on peut dire, je crois, que cette notion de vérité que nous mettons en œuvre est plus proche de la notion qu'avait la tradition classique, depuis les Grecs, que de la notion des modernes, de ces hommes qui font une antithèse entre une vérité concernant les choses et puis une vérité au-delà, dans la rencontre des personnes, par exemple. Ça, c'est la parcelle de vérité. Mais ensuite, alors, il faut critiquer. Il n'est pas vrai que la notion que nous propose nos adversaires aient une affinité avec la notion hébraïque de vérité. Souvent, ils le suggèrent en disant « Vous avez la notion grecque, nous la notion hébraïque. » Il faut d'abord savoir s'il y a une notion hébraïque. Moi, je préfère parler de la notion de vérité de l'Ancien Testament, de la révélation. Ce n'est pas la mentalité hébraïque qui est notre norme, mais la parole de Dieu exprimée en hébreu pour l'Ancien Testament. Je dis que cette notion de vérité moderne, de coloration existentialiste le plus souvent, n'est pas la notion hébraïque. J'ai essayé de l'étudier, cette notion. Il y a un article qui est apparu autrefois dans Temelios, la revue des étudiants en théologie des GBU internationaux, où j'ai essayé de montrer. Non, pas du tout. D'autre part, la notion que nous mettons en œuvre, quant à nous, ce n'est pas la notion grecque. Bien, j'ai dit qu'elle était plus proche, mais il n'y a pas d'identité, et de très loin. La notion de vérité grecque privilégie l'impersonnel, c'est un accord de la raison avec l'essence qui se distingue du sensible, de la matière. Cette perspective-là n'est pas du tout la perspective biblique, et nous ne l'admettons pas. Elle procède d'une pensée qui fait de la raison l'ordre divin même auquel nous participons, de telle sorte que c'est une étincelle de divinité en nous que la raison. Cela n'est pas du tout dans la perspective biblique, et la notion de vérité est nécessairement affectée par de telles connexions. Alors notre position n'est pas celle des Grecs en matière de notion de vérité. Surtout, nous devons contester l'idée que c'est nous qui apporterions cette notion de vérité à la Bible. En fait, quand nous nous approchons de la Bible, nous avons des notions de vérité plutôt modernes, déformées, vaseuses, tout ce qu'on veut. Et que se passe-t-il qui nous fait aboutir à la confession Jésus Seigneur, qui comprend la seigneurie de l'Écriture sur notre pensée? Que se passe-t-il? Il se passe que la parole de Dieu, avec la puissance qui lui est propre, saisit notre esprit, en casse les déformations et réforme ce qui était déformé, redresse ce qui était distordu, et nous donne une notion de vérité que nous n'avions pas. Ce n'est pas une notion de vérité que nous apportons à la Bible, parce que chacun apporterait sa notion, puis alors finalement on ferait de la Bible ce qu'on veut. C'est la Bible qui a une notion de vérité, solidaire de tout son message, et qui nous en instruit. J'aime bien ce verbe instruire, n'est-ce pas, qui veut dire construire de l'intérieur. De notre chaos, de notre confusion, la puissance de la vérité biblique fait surgir un édifice intérieur, et la notion de vérité nous est ainsi apprise. Voilà ce qui se passe en réalité. Alors bien sûr, il y a une notion de vérité impliquée, une notion de vérité qui est solidaire de la prédication d'un Dieu créateur, indépendant du monde, d'un Dieu qui a tout déterminé dans sa sagesse et sa puissance, d'un Dieu qui a créé l'homme à son image, qui a créé le monde par sa parole. Tout cela, oui, entre dans la notion biblique de vérité. Mais la seule conclusion que nous pouvons tirer, ce n'est pas qu'alors il faut laisser maintenant n'importe quelle notion de vérité prendre pied dans l'Église chrétienne, dans une espèce de pluralisme confusionniste. La seule conclusion que nous devons tirer, c'est que notre pensée tout entière doit être réformée, et constamment réformée, jusqu'en ses notions primordiales, jusqu'en ses racines, en quelque sorte, par la parole de Dieu. Paul parle d'une non-conformité au siècle présent et d'une transformation par le renouvellement de l'intelligence. C'est la parole de Dieu qui l'accomplit, l'Esprit appliquant cette parole. Il parle encore ailleurs d'un renouvellement de l'esprit de l'intelligence dans le chapitre 4 aux Éphésiens. En quelque sorte, l'orientation fondamentale, la puissance motrice de l'intelligence doit être renouvelée. Et la parole de Dieu devient alors guide et permet de refondre, comme elles doivent l'être, les notions primordiales, comme celles de vérité. Voilà la situation, me semble-t-il, que nous avons. De telle sorte que la conclusion demeure inéluctable, un chrétien fort, c'est un homme en qui la parole de Dieu habite. La parole de Dieu habite en vous. Voilà le secret de la force en face de la confusion théologique. Ma conclusion sera que, si persuadé que je sois et si persuasif que je cherche à être, je sais bien que ce n'est pas ce que je vous dis qui peut suffire à vous rendre fort, à vous permettre d'adhérer de tout cœur à cette doctrine. Mon expérience m'a montré qu'il faut non seulement dénoncer les sophismes et toutes les pensées qui s'opposent à la parole de Dieu, mais il faut aussi que le terrain soit préparé par un désir, un vrai désir, de ne suivre que la parole de Dieu et d'être réformé jusqu'en ses profondeurs intérieures par cette parole. Si ce désir n'est pas là, le monde réussira toujours à trouver la fissure et le vent de la confusion pourra souffler et déporter. Et si ce désir est là, alors le Seigneur voudra bien le faire mûrir et permettre que le cœur s'ouvre tout entier à la parole de vérité.